Deutsche Welle, magazine environnement.
Nous parlerons cette semaine d'une initiative pour éclairer les maisons au Burkina Faso et de la notion des réfugiés climatiques et environnementaux.
On peut qualifier de réfugiés environnementaux les populations des zones arides, victimes de la désertification, qui se déplacent pour chercher de l'eau.
Mesdames et messieurs, bonjour, Kossivi Tiassou au micro. Selon les estimations des Nations Unies, 250 millions de personnes seront d'ici 2050 forcées de s'exiler à cause des bouleversements du climat. Un enjeu humanitaire et géopolitique majeur, pourtant soigneusement mis de côté dans les négociations internationales. En Afrique, le sujet préoccupe beaucoup. À la demande de l'un de nos auditeurs, nous vous proposons de réécouter l'explication du professeur Ibrahim Ali. Il est spécialiste du droit environnemental à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il définit d'abord qui on peut appeler réfugiés climatiques ou environnementaux.
On peut qualifier de réfugiés environnementaux ou de réfugiés environnementaux au pluriel toutes les personnes, tous ceux qui sont victimes actuellement des phénomènes climatiques, environnementaux, écologique. Et ça, c'est très variable. On peut qualifier de réfugiés environnementaux les populations des zones arides, victimes de la désertification, qui se déplacent pour chercher de l'eau. On peut également qualifier de réfugiés environnementaux tous ceux qui sont victimes des cataclysmes naturels causés par des phénomènes comme le réchauffement climatique, ceux qui sont sur des terres qu'ils doivent quitter parce qu'il y a des inondations consécutives au niveau de la mer, niveau lui-même dû au réchauffement et à la fonte des glaces. Donc, il y a plusieurs cas qu'on peut ranger dans ce sens. C'est assez variable.
Oui. Donc,
sur le plan juridique, il y a déjà eu des réflexions sur la prise en charge de ces populations. Un projet de convention sur les déplacés environnementaux est à l'étude depuis très longtemps au niveau international, mais il n'a toujours pas abouti.
Mais ça ne va pas être un travail facile, d'autant plus qu'il faut identifier qui est réfugié environnemental et qui ne l'est pas.
Oui, bien entendu, il faut éviter que ceux qui ne sont pas des réfugiés environnementaux profitent de tous les avantages et de toutes les réparations qu'on doit accorder aux véritables victimes. C'est un travail qui doit être fait, mais les organisations internationales et les organismes de la société civile en particulier ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Je prendrai simplement pour le cas des pays africains. Beaucoup de ce qu'on appelle les transhumants, beaucoup de populations se déplacent. Et les déplacements sont causés surtout par les phénomènes d'aridité, de perte des ressources qui sont à la base de la nourriture de ces populations. Et ces déplacements entraînent des conflits parce que quand les populations se déplacent, elles vont occuper d'autres zones sur lesquels il y a déjà soit d'autres catégories de population comme des agriculteurs, et il y a souvent des conflits. Et malgré les textes existants dans les différents pays, malgré les régimes juridiques en vigueur, on n'arrive pas à trouver des solutions à ce niveau. C'est la raison pour laquelle il faut une approche globale.
Oui, professeur Lee, est-ce que vous êtes d'accord avec nous comme quoi la transhumance ne date pas d'aujourd'hui?
Elle ne date pas d'aujourd'hui, mais les phénomènes climatiques ont changé. Les historiens peut-être pourront nous dire que cela est très ancien, mais je ne pense pas que nos populations, nos ancêtres qui pratiquaient cette transhumance depuis longtemps, souffraient à l'époque des changements climatiques comme nous le vivons aujourd'hui. Donc les conditions ont changé, il faut donc, avec les changements des conditions, il faut absolument qu'on adapte les stratégies, il faut s'adapter. Voilà pourquoi aujourd'hui dans la question des changements climatiques, il faut surtout s'adapter, c'est l'adaptation qui est la solution qu'il faut mettre en place.
Malheureusement, jusqu'à présent, aucun test n'a été rédigé pour prendre en compte la situation particulière de ces réfugiés environnementaux ou bien climatiques. Mais on a tendance à beaucoup plus parler de réfugiés climatiques que de réfugiés environnementaux aujourd'hui.
Il faut dire qu'un projet de texte est bien préparé. Il est dans le circuit, mais il n'a pas encore été adopté par les instances internationales parce que il soulève un ensemble de questions. et ces questions sont assez diverses. On ne peut pas les résoudre simplement au cours de rencontres internationales, de conférences, à l'image des COP. Je me souviens en 2012 à Rio de Janeiro, lors de la rencontre sur les Nations Unies, il a été longuement discuté cette question, mais sans pouvoir aboutir à des résultats concrets. Mais je pense que cette question fait partie des mesures d'application de l'accord de Paris sur le climat.
Oui. Et peut-on parler aujourd'hui de réfugiés climatiques ou bien de façon en général de réfugiés environnementaux en Afrique?
Oui, on peut en parler. On peut en parler. Les exemples ne manquent pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pays africains, de la zone sahélienne. Mais il y a également toutes les populations qui sont victimes de l'érosion côtière. N'oubliez pas que les phénomènes climatiques sont aujourd'hui un phénomène global. Et ce phénomène global ne peut pas être envisagé simplement sous l'angle de la désertification ou de l'érosion côtière ou du manque d'eau. Il y a également les conflits dus à la gestion et à l'exploitation des ressources.
Et donc, si vous parlez d'érosion côtière, donc vous voulez nous dire qu'il y a aussi des réfugiés climatiques au Sénégal?
Oui, bien, mais le Sénégal n'est pas le seul pays. Je vous donne un exemple. Il y a des zones au Sénégal où il y a des déplacements de certains villages et de populations dus à l'érosion côtière. Les villages ont été obligés d'être abandonnés par les populations. Malheureusement, on est obligé de s'adapter. C'est ce que j'appelle l'adaptation. Et les techniciens en matière environnementale et en matière d'érosion côtière savent que l'adaptation oblige les pouvoirs publics, les populations, à se déplacer pour le cas d'une zone côtière, par exemple, et à trouver d'autres champs d'installation, d'autres zones, le temps de pouvoir réparer la dégradation au niveau côtier. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement difficile à gérer. Le Sénégal n'est pas le seul exemple. Il y en a dans différents pays de la zone côtière. Les populations, quel que soit leur lieu d'implantation, dès lors qu'elles sont victimes sur le plan juridique, elles peuvent avoir droit à la réparation des situations qui ont été constatées. Donc la réparation des dommages causés aux pertes est d'ailleurs un des éléments essentiels dans les dispositions de l'accord de Paris. L'accord de Paris prévoit les mesures pour lesquelles on doit pouvoir, dans des conditions bien précises, procéder à la réparation des dommages subis par la population du fait des changements climatiques.
Professeur Ibrahim Ali, spécialiste du droit environnemental à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Les changements environnementaux sont devenus l'un des principaux facteurs, sinon le principal, de migration et de déplacement des populations dans le monde. Des chercheurs et des ONG ont déjà annoncé l'ampleur d'un phénomène dont l'accélération met désormais la question des réfugiés climatiques au centre des enjeux humanitaires. Il est possible de faire la lumière partout dans le monde sans polluer. Au Burkina Faso, la princesse Mozi Abzé Djima a fondé une entreprise qui fournit des solutions solaires aux populations des zones rurales où l'électricité est difficile d'accès. Le reportage de Julia Heinrichmann, présenté par Wendy Bashi.
Kalembouli est à 3 heures de route de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il y a encore quelques années, il était très difficile d'y étudier la nuit. Mais maintenant, chaque enfant dispose d'une lampe à énergie solaire. Grâce à Princesse Abzé, la fondatrice de l'entreprise sociale qui facilite l'accès à l'énergie renouvelable. C'est une figure populaire.
Et vous n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs.
On applaudit bien.
Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs.
La plupart des habitants sont capables de rembourser la lampe nommée Mama Light en 6 mois. La princesse raconte que les 1000 lampes distribuées ont transformé la vie des enfants ici.
Ces enfants voient aussi qu'en étant allés à l'école, pieds nus, on peut arriver, qu'ils soient fiers d'eux-mêmes et qu'ils peuvent arriver quelque part, que c'est possible. De ne pas désespérer, même quelle que soit la difficulté, si moi j'y suis arrivée, eux, ils voient. La dernière fois quand je suis venue, j'ai dit, moi, je suis venue en véhicule. Mais vous, si vous étudiez bien, vous allez construire les routes et même des aéroports et venir atterrir.
Malgré cette visite prestigieuse, l'école n'est pas fermée aujourd'hui. Les notes des écoliers se sont améliorées grâce aux lampes solaires, selon leurs professeurs.
En tout cas, quand nous avons reçu les lampes, on était très contents parce qu'il y avait certains élèves qui étudiaient avec les torches. si ça se gâte, c'est fini aussi. Donc, quand ils rentrent la nuit, ils n'arrivent pas à apprendre ce que nous avons fait. Mais depuis qu'on a réussi ces lampes, quand ils font un rappel sur ce que vous avez vu, il y a les doigts pour répondre.
Très peu de gens ici ont accès à l'électricité. Il n'y a que deux générateurs. Sans les Mama Lights, un tel travail de précision serait très difficile. Grâce à l'initiative, vous pouvez également voir que de petits panneaux solaires pendent à presque toutes les fenêtres. Ils permettent de recharger les lampes.
Maintenant, avec la lampe, tu peux faire 8 heures. Il y a des lampes qui, même, qui durent partout. On se sent à l'aise et on circule comme on veut. Surtout avec les enfants. Les femmes sont contentes. Même les papas aussi sont contents. Parce que ça a vraiment donné un grand changement pour le village.
La princesse décide du lieu de la distribution des lampes solaires après avoir consulté les chefs et les aînés des villages. Il y a déjà des centaines de milliers de Mama Lights dans tout le Burkina Faso et d'autres doivent être livrées. La princesse a eu l'idée alors qu'elle voyageait avec sa famille.
Je suis allée au village de Kamsando avec ma fille Camille maintenant qui a 20 ans et c'était complètement noir. Alors le soir, mais là, je me suis dit quand même, je dis avec les technologies qui existent de nos jours, avec le solaire, c'est facile, ça peut s'adapter à notre contexte, il suffit d'y travailler. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic en fait.
Son entreprise sociale amène Princesse Abzé à souvent prendre la route au Burkina Faso, mais aussi internationalement en tant qu'envoyée spéciale du président du Burkina pour les objectifs de développement durable. Elle échange régulièrement avec le ministre de l'Environnement. Le Burkina Faso a récemment ouvert la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest.
Ce sont des solutions locales, mais faites par les locaux et qu'on doit aussi en tirer les bénéfices, les dividendes. Et ça aussi, ça fait partie de notre rôle. C'est une nouvelle Afrique, une nouvelle Burkina qui a un nouveau visage, qui est aussi conscient de son potentiel.
Le Burkina Faso vise à devenir l'un des pays pionniers de l'énergie solaire en Afrique. Les entrepreneurs sociaux comme Princesse Abzé ont un rôle essentiel à jouer ici. Elle prévoit maintenant d'étendre son programme à toute l'Afrique.
Merci à Julia Hanschmann et Wendy Bashi pour ce reportage. Était également au menu de ce magazine la notion de réfugiés climatiques et environnementaux. Kwasi Vitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.